Cola,
vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Amis lecteurs, amis lectrices, auditeurs et auditrices, c'est le 14e numéro de cette saison 3 de Polar Vin et Compagnie. Donc ça nous fait un 3-14, un chiffre pi. Et je suis avec mon ami Florent. Salut Florent.
Salut William. Bonjour à toutes et tous.
Donc, un numéro spécial Robin Cook 2026, le dernier de la saison, puisque c'est le cinquième roman et dernier en lice, celui de Maya Thirier, Sans Éden. Et puis, on arrive à la fin aussi. Il faut que les gens se bougent et aillent voter.
Oui, car c'est bientôt la fin, la dernière journée de vote dans les médiathèques partenaires de Capsule Aveyron pour le prix Robin Cook. C'est le 31.
Donc c'est la dernière semaine. Hein. Le 31 est un dimanche, je crois, donc vous voilà. Allez le 30. Hein.
Ouais. Donc c'est le 30 et nous, on sera au courant des votes le lundi suivant.
Pour ceux qui ont lu, bon, je pense qu'ils savent dans quelle médiathèque ou bibliothèque aller, mais tu peux nous rappeler les bibliothèques et médiathèques qui ont participé ?
Oui, alors cette année, on a participant au prix Robin Cook, on a la MESA, la médiathèque de Millau, la médiathèque de Sévrac, la médiathèque de Saint-Afrique, la médiathèque Larzac-Vallée à Cornus, la médiathèque du Viala du Tard, la médiathèque de Saint-Bosély aussi. C'est pas mal, non ? Puis on a deux cases vides qui s'est rajoutée à tout ça et Luc Laprimaube.
Donc on trouve quoi dans ces bibliothèques et médiathèques ?
Alors on trouve les cinq ouvrages sélectionnés pour le prix Robin Cook.
On les rappelle ?
Donc Maya Thirier, Sans Éden, Makodou Atolodé, Étincelle rebelle, Descente de liste par Jean-Marie Légoni, Les Saules de Mathilde Bosseau, sans oublier Sophie Demange et Les Bouchères. Donc le jury du prix Robin Cook se réunira le 6 juin au matin. Je n'en fais pas partie, William non plus, non. Et on ne va quand même pas donner notre avis. En tout cas,
on va rester neutre.
Nous, on est allé voter.
Exactement.
Donc il faut voter, quoi. C'est comme ça. Parce que la fin juin s'annonce chargée pour tout le monde, et surtout pour ceux qui aiment le polar, ou simplement ceux qui veulent découvrir de nouveaux auteurs ou autrices, grâce au prix Robin Cook du premier polar.
Et oui, parce que le 6 juin, donc, les jurys se retrouvent, délibèrent... Élise le premier, le gagnant, et puis il donne quand le résultat ?
Le résultat, ce sera à la fin du mois de juin. Le 27 juin, le samedi, on fera un petit événement au Silex. Donc c'est dans la salle du CREA, mais vous allez voir des affiches partout très bientôt. Et ça commencera le 26 juin. Tapis rouge, vendredi, on accueille... de manière formelle et informelle et décontractée, nos trois auteurs présents sur cinq qui viendront donc le vendredi 26 juin à 18h30 à SILAB pour nos adhérents et les Happy Few. Voilà, tout ça à SILAB, la librairie de Zoé et Nicolas, rue du Mandarousse, partenaire, librairie indépendante et une paire de passionnés.
Donc ces trois auteurs, on peut les citer ?
On aura la chance d'avoir Makodou Atolodé, Jean-Marie Légoni et Maya Thirier qui ont eu le temps et ont accepté de venir jusqu'à vous. Voilà, trois des auteurs sélectionnés.
Pour les deux autres, hein, c'était des engagements professionnels puisque ce sont des premiers romans et ce ne sont pas des auteurs professionnels encore. Donc,
Exactement. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu venir, mais ça va être absolument génial. Et le 26, c'est le vendredi à 18h30 à SILAB, donc sur invitation, mais le 27, le samedi 27 juin, et on va commencer sans doute par un petit déjeuner au Trenel vers 8h30 du matin.
Du côté de la place Foch.
Voilà, pour bien engager les festivités. Et ensuite, on va dispatcher nos trois auteurs dans trois des médiathèques qui ont eu la chance de participer avec nous au prix Robin Cook. Donc à Mio, Makodou Atolodé, à Cornus, Maya Thirier, à Saint-Afrique, Jean-Marie Légoni. Et ils présenteront avec des membres de l'association leur premier roman. On pourra discuter avec eux et ensuite on aura une petite collation avec évidemment les signatures. Donc ça, c'est le samedi matin. Et pour ceux qui ne peuvent pas aller à Saint-Afrique, à Cornus ou à Millau le samedi matin, parce qu'ils ont d'autres engagements, ça peut arriver, ne désespérez pas. À 15h, les trois auteurs seront dans une table ronde au Silex. Et après cette table ronde, nous remettrons officiellement le prix Robin Cook. Ensuite, on pourra discuter avec les auteurs et puis partager avec eux un verre de l'amitié. Tout ça devrait nous conduire jusqu'à 18h facilement. Donc au Silex, à partir de 15h, si vous voulez voir les trois auteurs réunis avec une table ronde dont le thème est tout à fait pertinent, puisque ce sont des premiers romans, le polar sans racine, de l'intimité à l'édition. On va voir un petit peu ce que ça donne.
Donc, réservez bien votre samedi 27
juin.
Avec un petit déjeuner au Trenel. Ensuite, vous pourrez aller, pour ceux qui seront sur Millau, vous pourrez aller à la Mesa de Millau, pardon, la médiathèque, rencontrer Makodou Atolodé. Et l'après-midi, vous retrouverez les trois auteurs et autrices au Silex, donc pour un plateau qui sera évidemment enregistré puisqu'on le diffusera ensuite sur Radio Larzac dans le cadre de Polar Vin et Compagnie. Puis l'après-midi, on saura enfin qui est le gagnant ou la gagnante. Mais merci Florent, et maintenant tu vas changer en quelque sorte d'uniforme puisque c'est le retour de l'inspecteur Derif qui interroge Maya Thirier, et ça n'a pas été la plus facile.
L'interrogatoire de l'inspecteur Derif.
À ta place, moi, je prierai pour que ça finisse vite.
Bonjour madame, vous êtes convoquée ce jour car on vous soupçonne d'avoir commis un premier polar nommé « Sans Éden » avec la complicité des éditions Colas. Je vais donc vous poser quelques questions auxquelles, bien entendu, vous pouvez répondre ou décider de garder le silence. Est-ce que tout cela est suffisamment clair ?
C'est très clair.
Très bien. Donc, nom, prénom, lieu de résidence et profession.
Nom, c'est Thirier, prénom Maya, lieu de résidence Paris et profession, c'est pas clair. Pour l'instant.
C'est pas clair pour l'instant, je le note, je sais pas si c'est en votre faveur. Dites-moi, quelles raisons vous ont poussé à commettre Sans Éden avec la complicité, je le rappelle, des éditions Colas, un délit qui pourrait vous condamner à recevoir le prix Robin Cook?
Les éditions Emmanuel Colas.
Emmanuel Colas, absolument.
Sont mes complices, c'est vrai, et non, ce qui m'a poussé à écrire ce roman, c'est une maison pour laquelle je m'étais endettée sur 20 ans et qui était en train de s'écrouler, et des assureurs qui ne voulaient pas faire leur travail. Et donc je dirais que ce qui m'avait poussée à écrire ce roman, c'est une espèce de colère, de rage contre des assureurs véreux, monsieur l'inspecteur.
Très bien. Donnez-moi maintenant 5 mots-clés qui résument l'esprit de Sans Éden.
5 mots-clés. Eh bien, c'est le cinéma, le huis clos rural, l'amour filial, la tragicomédie.
La tragicomédie.
Je crois qu'il y a 5 mots, là. Ça fait 5 mots.
Oui, si on a tragédie et comédie,
ouais.
Je vous l'accorde. développez un peu amour filial, huis clos rural.
Ouais, amour filial. L'amour filial, c'est-à-dire un amour entre d'un petit garçon pour son père et réciproquement. Mais je crois que le cœur battant du livre, c'est surtout l'amour fou que ce petit garçon porte à son père fragile et manifestement en partie défaillant.
Et un huis clos rural, est-ce que c'est possible ?
Oui, c'est-à-dire que c'est un peu... une espèce de... Il y a une maison de campagne, mais ça reste... Le huis clos est quand même à l'échelle d'un hameau. C'est-à-dire que c'est une espèce de huis clos en plein air, un peu comme, comme Guy Rodi l'avait fait avec L'Inconnu du lac, qui probablement m'a inspiré peut-être inconsciemment. Et voilà, dans L'Inconnu du lac, il fait un huis clos rural en plein air. C'était sans doute un peu un modèle narratif inconscient de l'écriture du roman.
Un complice inconscient. Alors vous dites aussi cinéma, mais en quoi ce roman a un rapport avec le cinéma ?
Il y a beaucoup de rapports avec le cinéma, déjà parce que j'ai une cinéphilie assez folle et qui fait que tout, qui imprègne finalement toute ma vie et également mon écriture. Et je pense qu'en fait, la façon dont j'ai écrit le livre, c'est un peu à la manière d'un spectateur qui regarderait un film défiler devant lui. C'est un peu ce que fait par exemple, je le fais beaucoup moins bien, mais c'est ce que fait magistralement, on va dire, Salinger dans certains de ses livres. C'est qu'il décrit des scènes comme si elles étaient en train de se dérouler sous ses yeux et qu'il les décrivait. Et c'est de cette façon-là que j'ai eu envie d'écrire mon livre, comme un spectateur qui assiste à quelque chose qui a lieu sous ses yeux. Donc je pense que c'est le cœur de mon livre, en tout cas, c'est cette voix narrative de quelqu'un qui voit sans rien pouvoir faire, qui voit... Une catastrophe, une probable catastrophe se dérouler au ralenti sans pouvoir intervenir.
Si vous deviez faire un choix dans ce roman, quel personnage sauveriez-vous envers et contre tout ?
Ah bah, Gabriel.
Et quel personnage ?
Le personnage principal.
Parce que c'est le personnage principal. Et quel personnage élimineriez-vous sans aucun état d'âme ?
Dans la vie ou dans le roman ? Dans le roman, j'élimine personne. Hein. Je pense que tout est important.
Dans le roman ?
Dans le roman ? Quel personnage j'éliminerais ? Non, là par contre, monsieur l'inspecteur, je peux pas répondre à cette question. Je dois attendre la présence de mon avocat.
Il n'y a pas d'avocat. Cette année, il n'y a plus d'avocat, madame Thierrier. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant ? Nul n'est censé ignorer la loi. Donnez-moi un personnage à éliminer sans état d'âme.
Un personnage à éliminer sans état d'âme ?
Dites un nom au hasard.
J'y arrive pas, je bloque.
Alors, manque total de collaboration. Ça ne nous arrive pas souvent.
Non, je ne veux pas éliminer les personnages, je ne veux pas. Je ne peux pas...
Ah, c'est terrible, hein, parce que... Pourquoi tous les garder, oui ?
Pourquoi tous les garder ?
Bah oui.
Bah, déjà parce qu'ils ont tous leur importance. Et ensuite, parce que si je réponds à cette question et que quelqu'un a envie de lire le roman, il pourra peut-être y voir un gros spoil. Donc
vous n'osez pas avouer, quoi.
Ouais, donc je refuse d'avouer.
Bien, Mathilde Thierrier, à ce stade de la procédure, nous vous considérons encore comme simple témoin. Mais c'est limite, c'est limite. Vous êtes donc placé sous le statut d'ORTF. Obligation de rester sur les territoires français.
Ah, ouais.
Vous devez donc demeurer sur le territoire national et rester joignable jusqu'à la fin juin, date de remise du prix Robin Cook. Exceptionnellement...
C'est bon, vous pouvez compter sur moi.
Très bien, ça vaut mieux. Donc vous pouvez partir et puis essayer de reprendre une vie normale.
Merci, inspecteur, dont j'ai oublié le nom. Merci beaucoup.
Une nouvelle voix dans PVC, mais une voix que vous connaissez bien sur cette radio, c'est Alex qui nous lit un extrait de « Sans Éden » de Maya Thierrier.
C'est le lendemain à l'aube que Gabriel remarque le premier déplacement d'objets dans la maison. Une broutille, le seau à serpillière. En fait, pour tout autre que lui, ce déplacement serait passé inaperçu. Mais Gabriel est maniaque en matière de ménage, si bien qu'à peine levé, ça lui saute aux yeux. Le seau à serpillière s'est déporté du fond de la salle de bain. où il l'avait rangé la veille, à l'entrée de la salle de bain, où il ne lui serait jamais venu à l'idée de le laisser. Bien sûr, il décide de n'en rien dire à Tom pour ne pas l'effrayer, et de n'en rien dire à Eden non plus, elle aussi pour ne pas l'effrayer, quoique d'une façon tout à fait différente. Cette découverte lui cause une impression désagréable. Mais cette impression, si désagréable soit-elle, trouve de quoi se dissiper quelques secondes plus tard, balayée qu'elle est par une autre, nettement pire, qui s'impose à Gabriel lorsqu'il ouvre la porte d'entrée. Cette fichue porte de moins en moins verrouillable et que, par conséquent, il n'a pas verrouillée. Il l'ouvre en grand pour aérer et là, instantanément, le problème du seau à serpillière s'autodétruit pour laisser place au problème plus direct de l'homme planté à quelques mètres de lui dans leur jardin. Le type est figé comme une partie de chat glacé, pétrifié sans doute par le double embarras d'être pris en faute et de tomber sur Gabriel à poil. Il ne bouge pas, il se tient de trois quarts, les yeux ronds et la bouche, en partie édentée, entrouverte, allégorie de la surprise et de la faute. Puis, Gabriel a l'idée de mettre ses mains en cache-sexe, et l'homme rompt sa stupide fixité. Il a un geste flou avec son bras, il s'excuse. Son chien s'est engagé sous le grillage défoncé qui enclôt le jardin. Alors, je me suis permis... Gabriel lui dit que oui, bien sûr, il aurait fait pareil. Il part enfiler un slip, des baskets, et l'aide à prendre la turbulente blanche, splendide croisement de berger suisse et allemand, en étau. Tom, que les jappements du chien ont réveillé, vient les seconder avec beaucoup d'inefficacité, leur mettant force bâton dans les roues en feignant de vouloir les aider. C'est très gai. Mais quand enfin les deux adultes parviennent à piéger la chienne, laquelle semble n'avoir d'autre but dans la vie que d'entrer dans cette maison-ci, son maître lui flanque une raclée folle, une rouste monumentale. La bête crie, Tom est choqué. Il en trépigne muettement de rage pendant que Gabriel, imperturbable, lui fait la leçon. « Ah bah oui, Tom, hein, ça c'est la campagne. Hein. Dans la vraie vie, ces gros chiens, on les dresse. » Mais son père a beau faire le malin, lui aussi, il tique. Plus personne ne traite son chien comme ça, en tout cas en public. L'arriération de ce comportement le sèche quand même un peu. D'un autre côté, il ne peut s'empêcher de trouver à cet homme un air affable. Et puis sa chienne est énorme et elle aurait pu se jeter sur Tom. Après tout, qui sait si cette démonstration de brutalité envers sa bête n'est pas uniquement destinée à les rassurer eux. « Bah, vous voulez entrer boire un café ?» L'homme observe Gabriel d'un drôle d'air, puis il accepte, sans que Gabriel parvienne à saisir si c'est de mauvaise grâce ou si, au contraire, il n'attendait que ça. Devant son mug, le type se révèle intarissable. Une pie.
Mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, que estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Watch yourself. walks to the sea. She looks straight ahead, not at me.
The Girl from Ipanema, ce morceau d'Antonio Carlos Jobim est chanté ici par João et Astrud Gilberto, évidemment au saxo Stan Getz. The Girl from Ipanema qui a failli être le titre du livre de Maya Thirier, c'est ce qu'elle nous a livré en off, et c'est surtout la musique sur laquelle Gabriel tombe amoureux d'Eden. On retrouve cette chanson plus loin dans le roman, mais... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Maya Thirier était venue fin novembre nous rencontrer à Millau et on l'avait déjà interviewée et à ce moment-là, elle nous avait conseillé du Gigondas. Par contre, il y a un auteur pour lequel on n'avait pas eu le temps de faire sa rubrique vin, c'est Jean-Marie Légoni, donc on se rattrape.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
C'est pas interdit que je sache.
Aujourd'hui, je suis avec Lucie Rivière du domaine de Prapin. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Jean-Marie Légoni, à qui je dois des excuses parce que on n'a pas pu passer cette interview lors du numéro qui lui était consacré. Donc Jean-Marie Légoni, qui a écrit Descente de liste, nous avait conseillé pour mieux apprécier son livre un vin des Coteaux du Lyonnais. J'aimerais, Lucie, que vous nous décriviez déjà les Coteaux du Lyonnais. On imagine que c'est proche de Lyon, mais on a du mal à les situer.
Alors, les Coteaux du Lyonnais, c'est un vignoble périurbain. C'est un vignoble qui se situe à l'ouest de Lyon, le plus au nord à Savigny, le plus au sud à Grigny, qui sont deux communes du coup de l'ouest lyonnais. C'est à peu près à 30 km vol d'oiseau entre le nord et le sud. C'est une toute petite appellation confidentielle qui fait seulement 200 hectares de, qui a 200 hectares de vignes plantées. Avec 20 domaines. Il y a également encore une cave coopérative avec quelques coopérateurs. Donc sur ces 20 domaines, c'est quand même plus du 3/4 qui sont engagés en agriculture biologique et qui sont des jeunes vignerons. Voilà. Les premières vignes plantées sur notre domaine, c'est 1890. Je suis la 6e génération à avoir repris le domaine familial. C'était mes parents encore jusqu'à 2020 qui travaillaient sur le domaine et on est revenu avec Pierre, mon mari. Après avoir fait multiples expériences en France et à l'étranger en vinification et en viticulture, on a repris le domaine familial.
Donc vous étiez tombée dedans depuis toute petite comme...
Alors effectivement, j'ai toujours vu mes parents travailler sur le domaine et puis les aider. Hein, Donc forcément oui, j'ai baigné dedans, mais je suis venue plutôt tardivement dans le monde du vin. C'était quand même en BTS, hein, donc ça a été assez tôt.
Parlons donc de ce vin. Quels sont les cépages que vous élevez ?
Alors, on a choisi la polyvalence, mais en Coteaux du Lyonnais, c'est Gamay en rouge, Chardonnay et Aligoté en blanc. Et nous, on a 10 cépages sur le domaine. On a planté plein d'autres cépages qu'on a trouvé qu'il y avait du sens en fait, de planter chez nous, sur nos sols, sur nos terroirs.
J'ai regardé votre site, alors j'adore la photo qu'il y a sur l'accueil, là, où on vous voit. Alors je sais que ça se faisait à l'époque dans les vendanges, où on, je ne sais pas comment dire, on se bigarrait de raisins.
Ah, de raisins. Alors...
Ouais, cette photo est magnifique, je trouve. Je sais pas qui
effectivement,
c'est...
Ouais. Bah, notre salarié, Loïs, est photographe de premier métier.
Ouais, ça se voit.
Et, on l'a formé en stagiaire et aujourd'hui il est salarié chez nous depuis 2021. Voilà, c'est pour ça qu'on a des belles photos.
Ouais, donc vous avez une page œnotourisme et puis bon, j'ai vu qu'il y avait des ateliers œnoludiques. Alors c'est quoi ?
Alors les ateliers œnoludiques, c'est le temps d'une soirée où les personnes viennent à partir de 19h, boivent l'apéro et se retrouvent du coup entre copains. C'est souvent que les gens viennent avec une petite équipe. Hein. L'idée, c'est de faire deux ou trois équipes dans la soirée où on fait des jeux autour du vin. Donc il y a une première séquence avec plutôt les arômes du vin. Et puis après, dans un second temps, il y a un quiz dans le monde du vin. Alors c'est plutôt, je reprends, c'est ce côté très ludique, hein, on en rigole. On fait plutôt une animation où en fait on apprend sur le monde du vin et surtout forcément, qu'est-ce que la biodynamie, on explique beaucoup qu'est-ce que les arômes du vin, les gens repartent avec des connaissances en fait de notre métier.
D'accord, voilà. J'ai vu que vous faisiez aussi des portes ouvertes, etc., comme ça se fait beaucoup. Exactement. Dans les domaines. Et alors, il y a la tablée de Prapin. Alors, ce n'est pas pour parler de la tablée de Prapin, mais c'est surtout pour parler des accords mets-vin. Alors, c'est Coteaux du Lyonnais. Alors, il y a du rouge, il y a du blanc, hein, vous avez cité tout à l'heure les cépages, mais quel vin avec quel plat vous conseillez? Peut-être des plats lyonnais plutôt?
Le plat avec le chardonnay, comme notre cuvée, les cerisiers, moi, l'accord qui va très très bien avec un chardonnay en fût de chêne, c'est par exemple les quenelles au brochet. Bah, alors oui, c'est lyonnais.
Ça très lyonnais. Oui.
Mais ça fonctionne très très bien avec un comté aussi, avec un plateau de fromage, avec des fromages à pâte molle, ça fonctionne bien nos chardonnays. Et après les gamets, les rouges, effectivement, vous coupez quelques tranches, quelques rondelles de saucisson sec, ou vous le servez avec un plat du type pot-au-feu l'hiver. Ça fonctionne super bien avec une viande un peu grasse avec le cochon. Ça fonctionne vraiment très très bien le gamay. Ouais, on est sur des gamay où il y a quand même de la fraîcheur. Il y a un petit peu d'acidité et forcément les plats justement qui sont un peu généreux, un peu gras, ça fonctionne très bien.
Saucisson chez vous, ça va être la rosette de Lyon, j'imagine.
Eh oui.
C'est le Jésus aussi, non? Il y a pas.
Il y a le Jésus effectivement aussi, ouais. Oui.
Non, c'est un peu pour amener ailleurs nos auditeurs et auditrices avéronais et véronaises. Merci beaucoup pour ces quelques explications. On a effectivement assez peu de temps puisqu'on vient illustrer donc la lecture de Descente de liste de Jean-Marie Légoni. Et puis merci Lucie. On mettra le lien vers votre site sur la page de l'émission. En tout cas, encore merci. Et puis
merci.
Je vous souhaite une bonne récolte.
Et je vous remercie. Très bonne fin de journée. Au revoir.
Cette émission se termine. Alors, un rappel, c'est la dernière semaine, faut aller voter. Les 26 et 27 juin, on vous réserve une belle rencontre avec les auteurs et autrices. Sans oublier les ateliers d'écriture, les prochains sont le 6 juin, toujours au Créa. Par contre, le 20 juin, il y aura un numéro spécial, un atelier spécial qui se déroulera sur le Cosméjean. Ce chapitre 14 de la saison 3 de PVC se termine. N'oubliez pas, vous pouvez aller regarder et écouter surtout les podcasts des 4 autres candidats au prix Robin Cook 2026 sur le site Larzac, radiolarzac.org. Oh là là, je m'embrouille. Le 26-27, donc gros week-end réservé. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter.
Allez voter, dernière semaine.